Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Clap Cinéma de Jean-Max, numéro 5, voilà. 5 exemplaires de Jean-Max Méjean. Bonjour Jean-Max.
Bonjour Sylviane.
Notre émission donc pour ce mois d'août, hein, fidèle au poste même pendant les vacances. Et on connaît votre amour de l'Italie. Et on a intitulé, enfin de commun accord, on en a discuté, cette émission « Trois génies, trois visions de l'Italie ». Nous allons parler de Fellini, de Visconti et de Marguerite Duras. Ça peut sembler surprenant. Deux hommes, une femme et Marguerite Duras, je ne l'aurais pas mis dans l'Italie, mais vous allez nous expliquer pourquoi.
Oui, oui, mais il y a quand même des relations.
Alors, nous avions parlé dans la précédente émission de juillet, puisque vous reveniez de Rimini, on avait parlé de Fellini, et c'est votre génie à vous.
Ah ben, c'est mon mentor, c'est mon metteur en scène préféré, c'est celui avec qui j'ai collaboré, donc c'est quelqu'un qui a marqué ma vision du cinéma et qui a marqué évidemment le cinéma mondial. Ça, voilà. Alors Rimini, c'est sa ville natale qui est sur l'Adriatique, et donc il y a maintenant un musée Fellini qui est magnifique et qui en plus se décline dans trois endroits de la ville. Donc dans le château Sigismondo, qui est un immense château de la Renaissance, magnifique, voilà, on a la collection pérenne et le cinéma Fulgor, qui est le cinéma de son enfance, qui a été réhabilité, bien sûr. Et derrière, il y avait un bâtiment qui servait pour les archives municipales, qui a été, il y a quelques années, revalorisé de façon à devenir l'endroit où il y aura des expositions temporaires. Et là, il y a d'ailleurs un ami à moi, David Parenti, qui expose et lui fait des portraits. Il a surtout commencé avec Pasolini, mais Fellini, Vittorio De Sica, enfin, comme il est italien, mais aussi quand même il y a Marilyn Monroe, Marlon Brando, donc toutes les grandes figures du 7e art. C'est en effet, c'est vrai que le cinéma, c'est un peu... on peut dire le miroir aux alouettes, le phare aussi sur lequel se dirigent tous les pauvres insectes qui vont se faire brûler, et les spectateurs, voilà.
Parce que pour moi, Rimini, c'était ces grandes plages de tourisme,
c'est ça.
De masse. Vous voyez, pour moi, Rimini, ce n'était pas une ville de cinéma. Je suis
parce que c'est la ville où le hasard l'a fait naître. Après, oui. Il est allé à l'âge de 19 ans, il est allé à Rome, mais il n'a jamais...
oublié.
Si vous regardez Amarcord, c'est un hommage à sa ville natale.
Bien
c'est,
sûr.
Voilà.
Oui. Donc, on écoutera la musique de Nino Rota. Hein,
voilà. Donc, Amarcord, c'est un de ses chefs-d'œuvre absolus. Et ce qui est intéressant, c'est que le colloque était consacré à Fellini et les écrivains. Fellini et la littérature. Et il y avait donc des écrivains qui étaient présents.
Pas que italiens. Surtout italiens.
J'étais le seul français à parler en italien, donc je suis très fier de moi.
Non,
et j'ai donc fait ma conférence là-dessus. Moi, j'ai axé surtout sur les... Fellini était né en 1920, donc depuis... le centième anniversaire de sa naissance, depuis 2020, en France, il y a beaucoup de textes qui se sont servis de Fellini un peu comme personnage de roman. Alors, ça, j'ai un peu parlé de ça, notamment le mien, qui était paru, qui s'appelle « Depardieu à Cinecittà », et qui racontait une histoire qui n'a jamais eu lieu, mais qui aurait pu, entre Depardieu jeune et Fellini qui réalisait le Casanova. Voilà. Et il y avait d'ailleurs Ermanno Cavazzoni, qui est l'auteur du livre qui va servir à Fellini pour son ultime film, La Voce della Luna. dans lequel il écrit son, il démontre son testament. Il y avait également un poète qui est très connu en Italie qui s'appelle Paolo Di Paolo, qui est vraiment, voilà, alors, Daniela Barbiani aussi, qui était sa nièce et qui était une de ses scénaristes assistantes, et beaucoup de témoignages de jeunes universitaires. Ça, c'est bien. Il y avait beaucoup de jeunes.
Oui, parce que ça perpétue le,
exactement.
Le Fellini. Comment vous avez appris l'italien? Justement, par votre passion du cinéma ou...
Maman, au lycée, j'avais étudié le latin, l'anglais et l'allemand. Mais surtout l'allemand, c'était ma première langue. Il ne me reste que quelques mots. Hein. Auf Wiedersehen et Dankeschön. Bon, quelques autres, mais bon. Et l'italien, ben, comme j'avais une relation épistolaire surtout, ou téléphonique parfois, avec Fellini, et j'allais à peu près tous les ans faire mon pèlerinage pour essayer de travailler à Cinecittà, mais j'y suis arrivé quand même. Il fallait être coriace. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas continuer à baragouiner à moitié, je ne sais pas quoi, et en parlant avec les mains. Donc, j'ai appris au lycée italien à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais quoi, 25 ans.
Et vous avez appris assez facilement?
Oui, quand moi, un peu de latin, un peu de français. Et puis bon, je suis d'origine à moitié italien. Hein.
Ah,
donc
voilà.
J'avais la nonna qui, à l'époque, me parlait en italien.
Oui, puis parce que j'ai des amis qui ont fait de l'espagnol et qui ont eu beaucoup de mal à se mettre à l'italien. Parce
ça ressemble, c'est des langues qui se ressemblent, mais il y a plein de faux amis déjà. Et puis, il n'y a rien de pire pour les Italiens, j'imagine, pour les Espagnols, que quelqu'un qui leur parle et qui croit parler l'espagnol et qui parle italien, et vice-versa.
Voilà. Donc, cette passion de l'Italie, elle est aussi intimement liée donc, au cinéma. Ça a été votre porte d'entrée et votre fil rouge, en fait, dans toute cette passion du cinéma.
Bah, en fait, oui. S'il ne m'avait pas répondu à ma lettre après avoir vu Fellini Satyricon, je crois que je n'aurais pas continué. J'aurais peut-être pas fait des études de cinéma. Je ne crois pas.
Les hasards de la vie.
C'est voilà. Les hasards, oui. C'est les hasards heureux. Parce qu'il y a quelquefois
a
des hasards malheureux. Hein.
Alors, nous écoutons Nino Rota.
Ah, ben, bah, évidemment. Donc. Et c'est évidemment la musique d'Amarcord.
Bien sûr. Alors, nous continuons cette émission de Jean-Max, l'émission numéro 5, déjà, août 2025. Trois génies, trois visions de l'Italie. Alors, après Fellini, nous passons à Visconti.
Alors, Visconti, Fellini, c'est pas du tout le même univers. C'est pas du tout... On sait, on raconte qu'il se détestait cordialement. Et il n'y a que quand Visconti est tombé malade, que Fellini a repris contact avec lui et lui a écrit une lettre, voilà. Et
c'est la raison de leur haine.
Oui. Il y a plusieurs raisons, comme toujours dans la vie. En fait, c'est pas vraiment eux en tant qu'individus. C'est un peu les cénacles, les admirateurs de l'un qui. Alors bon. Quand même, Visconti avait été vache avec Fellini parce qu'il avait dit « Oh, Fellini fait du cinéma de provincial.
Ah, » voilà. C'est gentil.
Alors, bah, vous savez que Visconti avait quand même plusieurs casquettes. C'était quand même un prince. Hein. C'était quand même de la haute aristocratie milanaise. Hein. Et en même temps, communiste. Il était engagé. Il a fait beaucoup de résistance. Et voilà. Alors, et homosexuel, avoué, c'était un des premiers grands artistes à avouer son homosexualité, alors qu'il n'était pas du tout à l'aise avec son homosexualité. Il voulait que ça se sache tout en n'ayant pas l'air de ce que
Le goût du scandale ou le...
Non,
même pas.
Non, c'était, je pense que c'était un goût de l'honnêteté. Il avait une honnêteté intellectuelle quand même, Visconti, assez énorme. Et je trouve qu'il a eu quand même beaucoup de courage, parce qu'on le détestait pour ça. C'est un grand noble et qui a pris la cause quand même du parti communiste italien. Mais il n'est jamais entré au parti, ça aussi. Donc ça fait partie de toutes ces contradictions. Hein. C'était quelqu'un qui a commencé avec, évidemment, le néo-réalisme, et avec des films qui se passaient vraiment chez les pauvres, La Terra Trema, La Terre Tremble, Rocco et ses frères, qui est un film sublime, mais qui parle des Italiens du Sud qui arrivaient à Milan, et pour survivre, un des deux apprend la boxe et pour devenir champion. Et après, il va passer à des films comme Le Guépard, par exemple, ou comme Les Damnés, des fresques historiques absolument grandioses. Avec,
Les Damnés, moi, ça m'avait...
Avec une précision. Ouais. Et en même temps, c'est très éloigné de l'histoire. C'est son
Bien
interprétation
sûr.
À
oui,
lui
son
de l'histoire.
C'est son interprétation, oui. Donc, une richesse là aussi. Et Fellini comme Visconti restent tout de même des maîtres du cinéma, même si...
Alors,
non, on se revendique plus d'eux, si.
Moi, je suis mal placé pour en parler. Alors, je sais pas, il faudrait demander aux jeunes, mais les jeunes qui s'intéressent au cinéma, mais pas au cinéma actuel, ils ont quand même au moins entendu parler un jour dans leur vie de Visconti. Je sais pas, j'espère.
Vous espérez, parce que j'ai entendu des personnes dire, moi j'ai refusé de faire un cours parce que je leur ai dit, revenez quand vous aurez vu un film de un tel.
C'était un professeur du cinéma ou un prof... Ah oui. Non, mais alors en même temps, là,
quand on est jeune, il faut apprendre.
Oui, mais on ne peut pas demander aux jeunes d'avoir vu tous les films que moi, par exemple, j'ai vus.
Oui,
et encore que moi, j'en ai pas vu beaucoup par rapport, par exemple, à Henri Hagel, qui était mon professeur à Montpellier et qui était né en 1902.
Oui.
Vous voyez eux, ils sont nés presque avec la naissance du cinéma. Et nous moi, je sais que j'ai de plus en plus de mal à voir tout ce qui se fait parce que, après, ça, c'est...
Mais il faut dire, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, quand je vois les programmes, il y en a trop. Et puis, en plus, les films ne restent pas très longtemps dans les cinémas. Donc, on n'a pas le temps chaque semaine d'aller voir 5 films.
Regardez à Cannes, là, il y en a trop. Parce qu'ils ont créé plusieurs sections. On ne peut pas aller tout voir. D'abord, il faudrait arriver à avoir les places là-bas.
Puis
en même temps...
On rappelle que vous n'y êtes pas allé cette année. Vous...
Mais non,
vraiment une grande foire.
Mais on ne peut plus avoir les places. On peut pas... Moi, j'avais vu 3 films l'année dernière sur 6 jours. Et en plus, c'était des films que je ne voulais pas voir. Donc,
Allez, le petit coup de patte de Jean-Max. On va appeler cette émission.
Non, parce que Fellini, par exemple, il détestait le festival de Cannes déjà à l'époque, même s'il a eu la Palme d'Or pour La Dolce Vita.
Moi, quand je vois ces défilés de mannequins, c'est pénible. On ne parle que de leurs robes, c'est vraiment pénible. Bon, arrêtons de dire du mal. Voyons la beauté.
Soyons gentils.
Non, et puis soyons dans le beau avec la symphonie numéro 5.
Alors là, oui, alors c'est celle qui illustre évidemment Mort à Venise, bien sûr.
Thank you.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous allons parler du troisième génie, de la troisième vision de l'Italie. Et comme je disais en introduction, moi j'aurais jamais pensé à Marguerite Duras pour une vision de l'Italie. Génie, oui, mais vision de l'Italie, non. Pour moi, c'est plutôt le Vietnam, hein, c'est plutôt. Mm-hmm. Mais Jean-Max, vous allez nous parler de Marguerite Duras et sa vision de l'Italie. Alors, comment vous savez ça?
Alors, disons que là, j'extrapole un petit peu, mais elle a quand même écrit un livre magnifique qui a été adapté au cinéma récemment, qui s'appelle « Les petits chevaux de Tarquinia ». Donc, Tarquinia étant une ville étrusque en Italie.
Les tombeaux de Tarquinia.
Voilà, les petits chevaux d'une des célèbres tombes de Tarquinia, où donc elle s'était rendue. Et en fait, comme toujours chez Marguerite Duras, on y est sans y être. Et ce qui est important dans ce texte, c'est aussi toute, on pourrait dire, l'infralittérature, c'est-à-dire tout ce qu'elle raconte autour de ce séjour, et qui était surtout scandé par les Campari. Le Campari, la célèbre boisson italienne, très sucrée, dont maintenant on fait avec l'apérole ou le Campari, on fait des spritz. Voilà.
Ah oui, c'est la mode maintenant.
Mais c'est très bon, les spritz.
Ça dépend, il faut que ce soit bien fait.
Ah, mais c'est moins difficile à faire que le mojito, je trouve. Parce que vous prenez du prosecco, un petit peu de San Pellegrino, et voilà, on va donner la recette.
Voilà.
Et vous mettez soit du Spritz, soit du Campari. Et moi, je le préfère au Campari parce que c'est rouge. Et comme votre belle chemise aujourd'hui.
Tunique.
Et tunique, vous mettez beaucoup de glaçons. Voilà. Et donc ça, on sait bien que Marguerite Duras, c'était quand même quelqu'un qui aimait, elle a écrit un livre de cuisine. Elle aimait la bonne chair, elle aimait boire, elle aimait plus que boire.
Fumer.
Écrire et créer et faire des films. Alors, c'est pas que ça, donc c'est pas simplement cette anecdote sur les petits chevaux de Tarquinia, mais moi je la vois à la fois comme quelqu'un qui vivait, qui ressassait, on pourrait même dire, qui ressassait son enfance, elle l'a ressassée dans tout, que ça soit un barrage contre le Pacifique, qui a été adapté au cinéma, voilà. Dont elle a été d'ailleurs scénariste pour le film. Après, il y a L'Amant, qui a été aussi adaptée pour le cinéma, avec beaucoup moins de bonheur pour elle, parce qu'elle a appris à critiquer le réalisateur. Elle a commencé évidemment avec Moderato Cantabile, et évidemment avec René Hiroshima, mon amour, dont elle avait participé au scénario aussi. Alors vous me direz, où elle est l'Italie là-dedans? L'Italie, je pense que pour elle, c'est un peu le rêve du pays de l'art, du pays de l'art de vivre aussi. Et voilà, c'est... Alors, après, par exemple, un de ses plus grands... Enfin, le film qui a eu le plus de succès, c'est India Song, qui dure 2 heures, dont on écoutera tout à l'heure un extrait musical. Alors, ce film-là a été réalisé à Boulogne-Billancourt, dans le château Rothschild. Et en même temps, les scènes de la fin dans l'hôtel des Roches Noires à Trouville. C'est-à-dire qu'après le succès du barrage et du Marais de Gibraltar adapté au cinéma avec la vente des livres, elle avait acheté Nofle-le-Château, qui est près de Paris. Elle était d'ailleurs la voisine de l'Ayatollah Khomeini dans la fin des années 70.
Ça faisait les articles de presse.
Nofle-le-Château. Alors, on savait, les Durassiens savaient que c'était parce que Marguerite y habitait, mais comme le hasard, vous voyez, tout à l'heure on parlait du hasard, a fait que l'Ayatollah était son voisin. C'est quand même assez...
Ils se rencontraient, non, je pense pas.
Je crois pas. Je sais pas.
Elle était tellement aussi, incroyable qu'on pourrait imaginer qu'elle avait voulu le rencontrer.
Alors,
peut-être.
Oui, mais vous savez que Marguerite Duras a toujours été féministe et assez visionnaire. C'est pour ça que c'est bien de les avoir associés tous les trois. Fellini, Visconti, Duras, ce sont trois visionnaires. Et elle, peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais parlé avec elle, mais peut-être voyait-elle le danger de... Parce qu'à l'époque, tous les Iraniens qui étaient en exil à cause du Shah voyaient l'Ayatollah Khomeini. D'ailleurs, il y a le film qui est magnifique, là, Lire Lolita à Téhéran, qui est sorti il y a 3 mois, qu'il faut voir. Parce que justement, ces Iraniens qui sont revenus pensant qu'ils allaient enfin rencontré la liberté, ben, ils ont rencontré autre chose, hein, c'est-à-dire la dictature des mollahs. Voilà.
Trois visionnaires, ça me plaît bien, oui.
Ces trois visionnaires. De toute façon, est-ce qu'on peut être artiste sans être un petit peu visionnaire?
Ouais. C'est-à-dire au-dessus de... avoir une sensibilité, quelque chose de particulier.
Puis chez les Grecs, les poètes, les artistes, ils avaient cette dimension, justement. Ils voyaient le kairos, ils voyaient au-delà des choses. Ils avaient un côté un peu de la divinité.
Mais est-ce que vous aviez... On parlait tout à l'heure de votre jeunesse dans les études de cinéma. Marguerite Duras, vous l'aviez lu avant d'avoir vu ses films? C'était une de vos...
Alors, Marguerite Duras, en fait, quand j'étais étudiant à Montpellier, je collaborais à une revue littéraire très, très intello, qui s'appelait Textuaire. Et j'avais pris contact, et donc, comme j'avais fait philo, et je commençais à écrire, c'était mes débuts, j'avais 24, 25 ans. Et donc, la rédactrice me dit, mais pourquoi tu t'intéresserais pas, toi, à Marguerite Duras? J'ai dit, oui. Et j'avais une copine, vous savez, toutes les femmes de cette époque-là, dans les années 75, elles adoraient Marguerite Duras. Mmh. Alors, j'avais pris, je crois que c'était Le ravissement de Lolvestein. Ça ne m'avait pas tellement convaincu, mais j'avais écrit à Marguerite et qui m'avait répondu. Trois lettres très gentilles. Voilà. Et donc, du coup...
Vous ne l'avez jamais rencontré, vous aviez dit.
Ah non, hélas. Non. Ça devait
être un personnage assez extraordinaire.
Ah, c'était, oui. C'est,
moi, elle me mettait mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'y ai jamais...
Un
peu autoritaire, peut-être. Peut-être... Je ne sais pas, ou peut-être submergée par son génie, je ne sais pas. Mais elle m'a toujours mise un peu mal à l'aise. Mais
non, moi, mal à l'aise,
ça dépend l'âge de sa vie. Je trouvais qu'elle a une fin de vie tout de même assez
triste.
Assez triste, hein. Donc, c'est comme, je fais un parallèle qui est peut-être absurde, comme Marguerite Yourcenar, je trouve que sa fin de vie a été assez épouvantable aussi.
Les fins de vie de tout le monde, sauf que la plupart des gens ne sont pas connus. Marlène Dietrich, c'est pareil.
Mais nous sommes tristes aujourd'hui, dites donc.
Non, c'est vous qui avez parlé. Non, moi, Marguerite Duras, je trouve qu'elle elle a eu la vie qu'elle voulait, en fait. Ouais. Elle a beaucoup créé, elle a beaucoup bu. Elle disait, je bois jusqu'à la folie. Puis alors, la rencontre avec Yann Andrea à la fin de sa vie. Avec un homme qui avait, je crois, 40 ans de moins qu'elle, et qui en plus était homosexuel.
Et puis qui a écrit
sur elle.
Hein. Enfin, c'est pas simple. Et Marguerite Yourcenar, c'est pareil.
Peut-être...
Bon, on fait des digressions, là. Donc,
oui.
Mais c'est vrai que le cinéma, c'est l'art, avec un A majuscule, c'est-à-dire entre littérature et tout, peinture. Dans le cinéma, c'est une peinture qui bouge, c'est une peinture qui vit, et c'est important. Donc, vous touchez à tout et vous continuez. Et je vois que vous continuez d'écrire. C'est votre autre passion ou c'est ensemble?
Mais c'est une névrose, peut-être, parce que, vous savez, les gens, on est très peu lus. Il y a très peu de gens qui achètent les livres. Alors, tout le monde me dit, mais pourquoi tu continues? Je ne sais pas, c'est comme une machine folle. Et en fait, justement...
Et là, vous parlez de Marguerite
Duras.
Diamant Bleu.
Voilà, donc Marguerite Diamant Bleu. J'avais écrit le roman, j'en ai trois là, c'est une trilogie moi aussi, je me permets de faire. Donc le premier c'était Depardieu à Cinecittà, c'était Fellini, et Depardieu bien sûr. Alors là, en revanche, donc je rebondis, c'était au moment où, c'était en quelle année le camion? 1977, elle tourne le camion, justement avec Gérard Depardieu. Et il y a une jeune femme qui s'appelle Jeannine, qui est un peu comme Flaubert et Madame Bovary. Madame Bovary, c'est moi, il a dit. Donc Jeannine, c'est moi. Et qui collabore à cette revue de cinéma dont je viens de vous parler à Montpellier. Et on l'envoie, comme par hasard, faire un entretien avec Marguerite Duras. Et donc elle part, et c'est ce que ce livre-là raconte.
Là, c'est un roman.
C'est un roman, bien sûr. Tout est vrai, tout est faux. Et elles se rencontrent et ça va donner naissance à un road movie. On va aller où ça? On va voir.
J'ai dû déconnecter 15 secondes.
Alors là, Jeannine arrive à Nofle-le-Château. Marguerite Duras, c'est les derniers ouvriers sont partis pour le tournage du camion. Ce film assez spécial quand même. Vous ne l'avez pas vu? Je vous recommande de le voir parce que...
Et alors vous me demandez où ça se...
Et où partent-elles?
À Trouville.
Ah, plutôt, parce que c'est pour faire la boucle avec le début. Elle part.
Bon, allez, je donne la langue au chat. En Italie.
Eh ben voilà. Ah, voilà. Donc, elles vont aller, c'est un groupe de femmes, en fait, mm-hmm. et vont donc aller à, elles vont aller à Tarquinia,
ah, voilà,
et rentrer avec un beau jeune homme qu'aura rencontré la fameuse Jeannine, mm-hmm. qui a un voilier, et ils vont se retrouver à 7. Voilà.
D'accord. Eh ben, dites-donc.
Ben, c'est un peu tous mes fantasmes, en ouais. fait. Hein.
Voilà. Bah écoutez, bel été à vous. Là, nous sommes
Merci
au mois
beaucoup.
D'août. Bel été à vous. On se retrouve en septembre pour plein d'autres projets. On reparlera peut-être de Cannes. On reparlera des films que vous avez vus pendant l'été. On est de revue. Et merci à vous d'être devenu un de nos fidèles de notre antenne pour Clap Cinéma une fois par mois.
Merci beaucoup.
Et nous finissons en générique de fin. J'ai oublié de le dire. India Song, bien évidemment. Chanté par, je dois rajouter,
Jeanne Moreau. En fait, c'est parlé Jeanne Moreau et Marguerite Duras.
Voilà. Alors, nous écoutons.
C'est la rumba des îles.
Ouais. Nous finissons ainsi et à bientôt.
La mousson, dessous le Bengale.
Cette poussière là-bas,
Calcutta central.
Cette rumeur,
le Gange.
Où est-on?
L'ambassade de France aux Indes.
Il y a comme une odeur de fleurs.
La lèpre.